90.3 FM on your dial. Oh, Eric Donaldson says so. Sing, tune in.
Hey yo, this is the Narcissist, the Euphrates, Nomadic Massive, represent Montreal, the Basra. You're listening to the CKUT 90.3. Turn up your radios and turn off your televisions.
Hello to you all and welcome to Viewpoints. Boris Chassaigne here with you for the next 30 minutes. On today's show, in New Brunswick, self-serve community food banks fall victim to abuse.
We stalked a couple of times this happened with a lot of food, and 15 minutes later, everything is gone, and there's only been one vehicle in the driveway. And then those people actually tried to sell the food.
In British Columbia, a local school principal looks at the realities of cell phone use as the province legislates to ban cells in classes next September.
People could argue that some of the lack of attention span we see is due to constant scrolling, dopamine hits, and all that stuff that comes along with constant usage.
Alberta introduces a new program to prepare for floods and droughts.
Albertans are innovators and problem solvers who, when they see a problem, roll up their sleeves and get to work.
Health authorities are in high alert across the country as measles is making a comeback. A growing number of cases have been reported in four provinces so far. Authorities worry that the situation could get much worse.
People have, may not be vaccinated for measles, so we want to make sure that people take a very cautious approach and make sure they do what they can to make sure they're protected.
A recent report contradicts Uber's contention that its drivers are making $33 an hour.
They don't have a wait list. We really think that this exacerbates the issue of flooding the market and diluting individual driver and rider earnings.
Welcome to Viewpoints, local news nationwide.
Follow us on X at CanadaLJI. Listen to all our stories on frequencynews.ca.
Thanks for keeping us company despite some misuse in recent months. Both the Sackville Community Sharing Cupboard and its predecessor, Station 8 Community Fridge in New Brunswick, have decided to continue to supply area residents with much-needed groceries on flexible schedules. Both organizations operate like self-serve food banks. People can then walk in and pick up what they need at any time. Even if the model is convenient for people in need, it is also prone to occasional abuse. They have, from time to time, even been cleaned out entirely within a few minutes of restocking. Erica Butler sat down with some of the organizers behind the community food operations in Dorchester and Sackville, New Brunswick, to find out how things are going.
Community cupboards, or community fridges, are becoming a fixture of life in Tanchamar, thanks to high food prices and stagnating incomes, especially at the lower end of the income spectrum. The Dorchester Moving Forward Cooperative is also known as Station 8. The group first started their community fridge back in July 2022. The focus is on produce, and an anonymous corporate donor gives two truckloads of produce every week for Station 8 to distribute. The fridges are stocked daily by staff and volunteers working out of the Station 8 headquarters. Volunteer Wendy Keats says the fridge generally works as intended and gets lots of use.
A lot of times we're able to keep it full for the better part of the week, but it depends on what we get. We never know what we're going to get.
But Keats says there has also been times in recent months when the fridge has not been used as intended.
Well, we had a couple of indicators. So one is because we are there, kind of who, how many, things like that, that are coming and going. We were watching people with Nova Scotia license plates coming in and going out with six bags, for example, of food. So we were seeing that happen. We were also being informed by members of the community about people who were abusing it from, again, outside of the area. We also had evidence given to us of people coming and cleaning us out. Like we stalked a couple of times this happened with a lot of food, and 15 minutes later, everything is gone and there's only been one vehicle in the driveway. And then those people actually tried to sell the food.
The incidents of abuse, though they are few compared to the number of people using the community fridge on good terms, prompted Station 8 to make some changes to their operation. They stocked the fridge more often with less produce, started closing access overnight, and have more clearly defined their target clients according to region.
We did recently have a bigger problem where we were getting cleaned out by people. I don't know what Sackville's experience has been with that, but we did have, for just really a short period of time, people abusing the fridge. So we did have, that's why we made some changes in just 10 a.m. to 10 p.m.
That's Wendy Keats of Station 8 Community Fridge in Dorchester. Sackville's community sharing cupboard, located in a small shed just behind the Sackville Commons building on Lauren Street, has had similar experiences to those in Dorchester. The pantry opened in May 2023 and is stocked twice per week by volunteers Jacqueline and Tammy Fahey. The operation is a project of the Sackville Food Bank and is funded from the food bank budget, mostly consisting of donations. The Sackville cupboard also gets extra produce from Station 8 on a regular basis, and community members and users also bring extra food to the pantry to be shared among those who need it. But still, the Fahey's say there have been incidents where they have returned to the cupboard within minutes of restocking and found it cleaned out. And some clients also report issues. In some cases, the Fahey's have been able to speak to the people involved.
It seemed to resolve itself each time. It hasn't really continued. It hasn't been a problem. Like, say, we've only had those two or three specific episodes. That was it. We haven't really done it. There's not really too much we can do different, you know.
Wendy Keats says there's often an outcry on social media when problems occur, and she sees calls for security cameras and monitoring of operations. But all the organizers agree that's not a practical response and defeats the self-serve nature of the operation.
We're volunteers. We're going to chase down somebody that just took our stuff and what, go to their house?
Keats and the Fahey's all agree that the community fridge and community sharing cupboards, despite hiccups and issues, are working to get food distributed to those in need. And the need is real, says Tammy Fahey.
I think it's helping a lot of people. And in this time, they really need it. Okay, a few people have ruined it for everybody, so we're trying not to let that happen.
That's Tammy Fahey of the Sackville Community Sharing Cupboard.
Follow us on X at CanadaLJI and listen to all our stories on frequencynews.ca.
The government of Alberta has recently introduced its new drought and flood protection program. The five-year and $125 million program will provide municipalities and Indigenous communities with funds to help build flood and drought prevention infrastructure, such as burns, flood walls, and retention ponds. According to the provincial government, the current El Nino conditions are causing warm temperatures and little precipitation over the winter, which could lead to major droughts during the summer. Ryan Hunt is reporting on that story. Rebecca Schultz, Minister of Environment and Protected Area, says this program is about funding the life-saving infrastructure needed to protect Alberta's communities for years to come.
Albertans understand all too well the devastating impacts that droughts and floods have on our homes, businesses, and critical infrastructure. And of course, the dangers that it poses to the safety of individuals and families in every corner of our province. But our province does not back down from a challenge. Albertans are innovators and problem solvers who, when they see a problem, roll up their sleeves and get to work. And that's exactly what we're doing here today. We know that communities have great ideas on project to make them drought and flood proof, but building this infrastructure, of course, is costly, and municipalities and Indigenous communities are already struggling with inflation and rising energy costs. That's why we're launching the Drought and Flood Protection Program to help communities build the infrastructure that they need to keep their people safe.
The program will see $125 million be invested into the program over the next 5 years as a part of Budget 2024, with the program set to roll out later this year. I'm Ryan Hunt.
Points. Local news nationwide.
In a push to tackle online abuse, the federal Liberal government of Justin Trudeau has introduced new legislation called the Online Harms Act, Bill C-63, which proposes stricter sentences, new regulatory bodies, and changes to existing laws pertaining to internet usage. This new proposed federal bill was announced shortly after BC's Premier David Eby announced a stricter approach to the use of cell phones by students in classrooms across the province. That initiative was announced in late January of this year and is slated to be implemented in BC by next September. Jackson Grice is the principal at Houston Secondary School. He says that while this initiative to get kids off their phones in school is a good idea on paper, he has yet to see what supports will come with this new responsibility for educators and school staff. Here's part of his conversation with Pamela Hassan in Smithers, BC.
Principal Grice, how invasive or distracting would you say cell phones are in your school currently?
I would say in our school currently, it would really depend on the child or the student. I would definitely say there are students that struggle immensely with cell phone usage in terms of it being a huge distraction to their learning. There's other students who it's not such a problem. I would say overall, though, if you look at pure student focus and engagement, I would say cell phones are a distracting thing that does hamper learning.
And do you think that restricting phone use will be a lengthy transition or smooth transition? We're looking at September of 2024 to enact this new rule.
I think when we heard this announced, I'm interested to see what are the parameters around this rule, because individual schools have their own kind of rules, regulations, and policies around cell phone usage. And here at Houston Secondary School this fall, for the first day of school, we enacted a cell phone rule that effectively banned using cell phones during bell times in classes. Mm-hmm. So we've already kind of test run this a little bit and seen what it can do. And, you know, I think for the most part, it's working effectively. And students, they get it, why they can't be on their phones during class time. So I think for us, it's going to be a pretty smooth transition. What I'm interested to see is, you know, is there any kind of teeth to this legislation? Is there any backup, or is it solely just placed on schools? And once again, we're monitoring it. But I think for this to be enacted long term, there needs to be policy backup, you know, at a higher level compared to the school level. When I say kind of provincial backup, you know, I think it needs to just be said, cell phones are not allowed, you know, bell to bell, right? And so every student coming into any school in BC knows what the rules are and kind of what the terms of engagement, so to speak, are around cell phones. So it's not even a question. We don't even have to have that battle at the school level. Mm-hmm. And, you know, if this is all offloaded to the individual school, then, you know, we're once again getting in those one-on-one conflicts and situations with kids. It just needs to be a standard thing, I think, across the board at the provincial level. So all kids, regardless of whatever school they're in, they know they can't be on their phone during class time.
Now, my question that I had for you as an educator, someone who's in the environment of working with students and their not only education, but also their growth as young people, you know, as part of your job. What are the realities, especially in small northern communities, of online bullying or intimate images being shared among students, which is something that C-63, at least three of the targeted concerns, have to do with?
Mm-hmm. Well, I would say this has changed drastically. I remember probably around 2009, 2010, when students started appearing in schools with cell phones. That was a much different animal and beast compared to what it is today. And, you know, when I think of a portion of my job as an administrator, we're dealing with kind of the nitty-gritty disciplinary things, dysfunctional things that are happening in the world of teenagers. And, you know, just 10, 15 years ago, it was largely person-to-person conflicts. Now, I would say the majority of issues we deal with stem from conflict or misuse and or, you know, things that shouldn't be happening in the online world. Yeah. And that can be everything from texting to social media to inappropriate content. I think our teenagers live in that online world so much that, you know, it really dominates what they do and how they think in a lot of ways. So I would say for us at the school level, and it, you know, I don't think it's any different between a small community and a big center, I would say the majority of issues that come across our desks as school administrators, there's background that is stemming from something to do with a cell phone, something to do online, social media. That's where the action is. That's where the kids spend the vast majority of their time.
I saw a statistic from 2022 even that said half of Canadian kids between 7 and 11 have a cell phone. Mm-hmm. And that shocked me, but that probably doesn't surprise you at all. Mm-hmm. By the time that they're walking through your doors, they've lived with that cell phone, and that online life and persona has probably defined a lot of their personality, especially in these formative years.
Exactly. And, you know, we're starting to see the first generations of kids coming through high school that they've grown up with phones. They've never actually lived in a world without a phone or instant access to technology. So, you know, in a way, there's also some research out there that brain wiring and brain development is impacted. You know, I people could argue that some of the lack of attention span we see is due to constant scrolling, dopamine hits, and all that stuff that comes along with constant usage. So, yeah, I would say it definitely plays a role. It impacts kids. You know, I think a lot of this legislation that's tabled, at least, is trying to minimize a lot of the negative things that happen. And from, you know, my point of view, I've seen a lot of hurt over the years. A lot of students get into situations either consciously or unconsciously that have harmed them. And it's pretty sad to see. Whether or not this type of legislation will really change things, I don't know. Because, you know, how do we get the word out to kids how to use these platforms appropriately? And they're so pervasive and so enticing that it's pretty tough. And, you know, I don't know if their legislation is going to be just the one silver bullet to help all of this. I really think it's going to take a dramatic shift in terms of society from parenting, from the way we raise our children, as to how do we interact with people? How do we use these tools appropriately?
Thank you so much for taking the time to speak with me today. Do you have questions or comments? Our email is radio@frequencynews.ca.
You're listening to Viewpoints with Boris Sassang.
Measles is making its way back in Canada, and health authorities are worried that more Canadians, and especially children, could be affected. Cases have so far been reported in Quebec, Ontario, Saskatchewan, and British Columbia. In Ontario, the Haliburton Cowartaw Pine Ridge District Health Unit has begun its next round of communication to ensure that student vaccinations are up to date, and authorities are taking this situation very seriously. The health unit suggests all children and adults make sure their measles immunizations are up to date. Jeff Gard is in Cobourg, Ontario. He spoke with the HKPR Health Unit's Manager of Communicable Diseases and Prevention Control, Marion Rock.
The Haliburton Kawartha Pine Ridge District Health Unit is continuing its efforts to ensure all elementary and high school students have their current immunizations, and now suggesting all individuals make sure their measles vaccinations are up to date as well. The health unit said Tuesday there are 4 active cases of measles in Ontario, with 3 reports of cases in 2 other provinces as well. I spoke with Marianne Rock, the HKPR Health Unit's Manager of Communicable Diseases and Prevention Control.
So this is really a situation where we're seeing measles, obviously internationally, but we're also seeing them in Ontario, right? We're seeing them in the Greater Toronto Area, and at some point, hopefully not soon or hopefully not at all, measles might make its way to the HKPR area. And so it's just another call to arms, you know, to make sure everyone checks their own, as an adult, their vaccination status for measles as well as children. And we know March break is just next week, and there's going to be lots of people traveling, I imagine. And so we know that you know, you visit different areas of the world, they have different recommendations around vaccines, and people have, you know, may not be vaccinated for measles. So we want to make sure that people take a very cautious approach and make sure they do what they can to make sure they're protected. So it sort of goes hand in hand with the ISPA or the enforcement we're doing. You know, it's just another reminder of the importance of vaccine. And we know that with COVID-19, a lot of people didn't have access to vaccinations because doctor's offices were closed and such. And so, it's just another reminder of the importance of how important vaccines are to keep everyone healthy.
Measles is a highly contagious virus spread through coughing and sneezing that can live up to 2 hours in the air. Symptoms of measles include fever, a red blotchy rash, red watery eyes, and white spots in the mouth. Measles is prevented by vaccination, and Ontario's routine immunization schedule includes 2 doses of the highly effective measles, mumps, and rubella vaccines for children before the ages of 7 years old. Rock said infants should receive their first dose at 12 months before the second dose between the ages of 4 and 6 years old.
Generally speaking, that's all you need when you're you need those 2 doses. But we know that vaccine eligibility and research has changed over the years. And so we know that there's some adults, particularly those born before 1970, that may not have those 2 doses. And so it's really important that they talk to their doctor about making sure they're up to date. Generally speaking, an adult born after 1970 should have 2 documented doses of measles. But again, there's all these different criteria. There's high-risk criteria. Healthcare workers are a different situation. And again, want to make sure that those people are definitely protected because they're the ones caring for those who may have measles and other people who are sick.
I'm Jeff Gard.
Okay, man, let's go. Okay.
You're listening to Viewpoints.
We stay in Ontario, where Ridefair TO's legislative poverty report takes exception with Uber Canada's claim about driver income. Uber claims that their drivers are making $33 an hour, whereas at Ridefair TO, in their own report, found the wage to be more like $6.37 per hour. Ridefair TO is a Toronto-based organization that advocates for ride-sharing platforms to be governed by fair regulations. The report says that there are 3 reasons why the wage is so low: too many drivers, low pay rates, and wait times between calls where they are not making any money. Details with Owen Thompson in Toronto.
Co-author of Ridefair's report, J.J. Fuser, appeared before the committee to answer questions and further explain the data. Fuser says,
so there are 2 issues. First, the number of rides has blown way past our prior estimates. So I think we can safely conclude that the kind of under-regulated industry led to induced demand for car-based travel. We know from studies in Toronto and other cities that this demand has come first and foremost at the expense of public transit. The second issue is that the increase in the number of drivers is more than double the increase in the number of daily trips. And that is why we see some of the results that we reported about 2 weeks ago in legislative poverty that, you know, if you start from Uber's median, that the median driver earns $33.35 per hour. You take into account how long they actually drive on average and the kind of expenses they have to pay out of that, and they're left with $6.37. That gives you sort of a sense of the dynamics behind that. The provincial policy fix that the company has offered to pay 120% of minimum wage, but only for that piece of engaged time, also does not provide a floor. Your expected earnings, given that median, are about, given the provincial minimum wage, are about $2.50, but it can go lower. And that's what we need a system to stop that. People aren't getting work. They're not getting paid for their expenses. It's a waste of driver's time, but also a waste of road space and carbon allowance. A more efficient system protects communities and drivers and customers, because drivers can improve their earnings even before any adjustments to fares are made if they're just working more.
Aaron Binder, a co-owner of Segway of Ontario, an electric scooter company, says that they hear stories from customers coming to have their electric scooters repaired who are gig workers for food delivery services like Uber Eats and Skip the Dishes. Binder says,
from the folks that get their scooters repaired from us, And a lot of them share how they have to now navigate an oversaturated market when it comes to gig work. And a lot of them are often unsure of their rights and struggle to make ends meet, whether that's rideshare or food delivery. And a lot of these stories reflect a broader trend that we've observed in our business. And that's few rideshare drivers and food delivery riders manage stability. Some can do it, but a lot of them are facing daunting economic insecurity. Uber has this open door policy for new riders. They don't have a wait list. And we really think that this exacerbates the issue of flooding the market and diluting individual driver and rider earnings. And because of their massive upfront investment over the years, they've been able to afford some of the best lobbyists in the world. And as they've argued that workers being contractors is a good thing for everyone, people have actually listened. But the truth does tend to come out, and we disagree with that. We know that many drivers can spend good portions of their shifts unpaid and waiting for a call. By implementing transparent wage policies, guaranteeing job security for gig workers, and committing to fair labor practices, we can foster a gig economy, if we need to have one, that uplifts our community, supports small business, and ensures dignity for all workers. If we don't do this, the price we all pay for convenience will be somebody else's poverty.
This committee comes only a few days after Uber and Lyft threatened to pull out of Minneapolis. Minneapolis City Council were introducing an ordinance to ensure ride-hailing service workers for services like Uber and Lyft were guaranteed to make minimum wage. Minneapolis isn't the only city that has tried to do this. Michael Reich, an economics professor at University of Berkeley, has been conducting studies for gig drivers, which he calls TNC drivers. Reich says,
"My remarks today draw from our studies of driver pay and minimum compensation policies in these and other jurisdictions. I understand from a recent study that the economic conditions of gig drivers in Ontario are similar to those in these other areas. The drivers receive well below the equivalent of the applicable minimum wage for employees. Meanwhile, the number of TNC vehicles in Toronto has grown rapidly and faster than the growth of passenger demand. This setup opposes the interests of the companies and the drivers, unfortunately. To respond to these problems, I understand the city is considering imposing a pause or cap on the number of TNC licenses, as well as setting a minimum pay standard per trip. New York City enacted both of these policies in August 2018 after our report and recommendation."
Toronto City Council has adopted the motion to allow city staff to conduct their analysis of Ridefare TO's data.
That's it for us at Viewpoints. Our reporters were Erica Butler, Pamela Hassan, Ryan Hunt, Jeff Gard, and Owen Thompson. Thanks to our national editors, Victoria Fenner and Maureen McEwen. Viewpoints is produced by the Community Radio Fund of Canada. Don't forget to write, yes you can, radio@frequencynews.ca. That's radio@frequencynews.ca. I'm Boris Chassagne, your host and producer. That's it for us this week. Until the next, ciao.
It's March, and you know what that means. It's les rendez-vous de la francophonie.
Check out rvf.ca to discover all the activities and contests happening across Canada.
Salut à tous et à toutes, bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Aujourd'hui, on glisse entre le mois de l'histoire des Noirs qui nous quitte et celui de la francophonie qui s'amorce. On rencontre l'auteur-compositeur-interprète Yao en Ontario.
Un bon rappeur à la base, c'était un MC, c'était un master ceremony, c'était quelqu'un qui avait de la fougue, qui avait du verbe, qui avait du vocabulaire, qui était capable de raconter une histoire, c'est un storyteller aussi. Donc pour moi, c'est un bon rappeur, c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui pousse les limites, qui pousse les limites de son art créatif, qui pousse les limites du texte, qui cherche à ne pas se répéter et qui cherche vraiment à raconter une histoire à travers la musique, à créer tout un univers.
On bifurque vers le Manitoba où le coup d'envoi du 26e mois de la francophonie a été donné. Puis on se rend au Salon du Livre de Toronto où on célèbre en même temps les mots et la bière.
On est assez curieux de voir cette association qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs. Bon, j'ai du mal quand même à avoir le rapport entre littérature et bière, mais ça a le mérite d'être original.
On pense déjà à l'hiver prochain, enfin dans certaines provinces, des acteurs touristiques de l'Acadie dépêchés au Québec.
C'était avant tout un honneur pour nous d'avoir été ciblés par l'organisation pour venir dans le sens s'inspirer de nos pratiques de développement touristique hivernal.
Et enfin, dans les territoires du Nord-Ouest, on feel poésie des auteurs en herbe et accomplis se partagent leurs mots et la scène. Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Suivez-nous sur X @CanadaLJI.
Merci beaucoup de nous tenir compagnie le mois de l'histoire des Noirs. Et maintenant, dans notre rétroviseur, alors que s'amorce celui de la francophonie en mars, prétexte idéal pour vivre cette transition tout en douceur, avec l'auteur-compositeur-interprète Yao, diminutif de Yaovi Hoyi. Yao, qui est un artiste de la Côte d'Ivoire aux multiples talents, il s'inspire d'artistes comme MC Solar, Abdel Malil ou Oxmo Puccino, avec un côté pop éclectique. Yao, né en Côte d'Ivoire de parents togolais et aujourd'hui franco-ontarien, est arrivé au pays à l'âge de 13 ans. En 2019, il rafle 7 nominations au gala des prix Tri-D'Or en Ontario, où il remporte le top 3 des prix les plus convoités, ceux d'artiste de l'année, de spectacle de l'année, ainsi que le prix coup de cœur des médias. Marie Hillès, à Ottawa en Ontario, l'a attrapé au vol entre ses haltes et nous présente ce portrait de Yao.
Métro, boulot, dodo, je me sens au bout du rouleau. Squat, truc,
le petit Yao qui est monté sur la scène pour la première fois à l'âge de 11 ans et qui s'est fait huer à une fête foraine. ça c'est la vérité de la vérité. Je lui dirais, tu sais, la vie est pleine de surprises. Je pense que ça m'a pris 7 ans avant de réaliser que je peux faire d'une passion une carrière. Et je pense que si j'avais à le refaire, peut-être que j'oserais un peu plus tôt. Mais après, je me dis, toute chose arrive pour une raison aussi, donc. Mais je pense que si j'avais un message à dire au petit Yao, je lui aurais dit, n'aie pas peur. Parce qu'à beaucoup de moments, j'ai eu peur.
Oulala, la fibre compétitive, sacrée prérogative. Je fais face aux épreuves comme une locomotive. Pressé, 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 je parais stressé, les sourcils froncés.
Ce matin, j'ai écouté la chanson Effet Placebo, ouais. que j'aime énormément d'ailleurs. Et la question m'est venue, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est un bon rappeur? Alors bien sûr, il y a beaucoup de pratiques, mais est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, du vocabulaire? Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Moi, je pense qu'un bon rappeur, je suis un peu de la culture hip-hop de l'époque. C'est un bon rappeur à la base, c'était un MC, c'était un master ceremony, c'était quelqu'un qui avait de la fougue, qui avait du verbe, qui avait du vocabulaire, qui était capable de raconter une histoire. C'est un storyteller aussi. Donc pour moi, c'est un bon rappeur, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui pousse les limites de son art créatif, qui pousse les limites du texte, qui cherche à ne pas se répéter et qui cherche vraiment à raconter une histoire à travers la musique, à créer tout un univers.
Si tu pouvais te définir en 3 mots, quel mot tu choisirais?
Poète, entrepreneur, éclectique. Parce que je suis un poète.
À la base, bon, c'est les textes, c'est les mots. Je suis un fanat de poésie, de littérature. Et je pense que le nerf, malgré tous les différents styles musicaux que j'arrive à combiner, le fil directeur de ma pratique artistique, ça a toujours été les textes. Entrepreneur, parce que c'est quand même un penchant important. Tu sais, je suis un artiste entrepreneur. Je gère mon projet, je gère d'autres projets. Je donne beaucoup de formations, je donne des ateliers d'écriture créative, je donne des classes de maître. Donc, je pense que tout le côté entrepreneurial derrière ce que je fais aussi est important et définit ma personne. C'est essentiel. Ça fait, voilà, je suis directeur d'Antelo Productions depuis 13 ans maintenant que la compagnie existe, donc avec une super équipe aussi autour de moi. Donc, voilà, éclectique parce que j'ai toujours dit je ne rentre pas dans une boîte. Je suis noir, je suis roux, déjà là, il y a un clash, tu vois. Je rentre pas dans une boîte. J'ai grandi sur différents continents. J'ai une culture musicale très éclectique. À 10 ans, je dis souvent, je chantais autant Wanna Be Started Something de Michael Jackson que je te chantais Caroline, je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur d'MC Solar ou encore Andrea Bocelli, Conte Partiro. Donc, c'est cette multiplicité d'univers musicaux qui m'ont baigné font aujourd'hui qui je suis. Donc, je navigue entre ces différents univers assez éclectiques quand même et je me retrouve en fait dans tous ces univers-là. Donc je pense que des fois les gens se posent la question comment est-ce qu'on peut le définir. Ben, c'est assez éclectique quand même pour essayer de me définir.
En 2019, tu as eu 7 nominations au Galatria, tu as remporté les top 3 prix. Ouais. Quand on te voit, on voit que tu es quelqu'un de très humble, très les pieds sur terre. Comment est-ce qu'on assimile tout ce qui t'arrive sans prendre la grosse tête?
Effectivement, déjà, je pense que de deux façons, je suis ce genre de personne qui n'aime pas m'asseoir sur mes lauriers. Et je considère que ces nominations, ces prix, c'est vraiment un peu une tape dans le dos de l'industrie qui te dit non, on aime ce que tu fais, continue. Mais je pense que plus important encore, c'est mon équipe. J'ai une super équipe. Je travaille avec les mêmes musiciens depuis 10 ans maintenant. C'est des gens qui m'ont vu grandir. Fait que d'être entouré de gens qui m'ont vu grandir, en fait, voilà quoi. Je ne me sens pas prendre, je ne me vois pas prendre la grosse tête parce qu'au final, je suis toujours entouré de gens très terre à terre, en fait. Voilà, je suis pas entouré de gens qui sont là à m'aduler du jour au lendemain. Non, je suis vraiment avec des gens qui ont ramé avec moi, qui ont galéré avec moi et on se rappelle tous les jours, en fait, d'où on vient. J'ai vraiment cette belle petite famille autour de moi. Puis je pense que ça aide beaucoup. Ça me permet, en fait, des fois d'oublier carrément que moi, je m'amuse, en fait. Tu vois, moi, je rentre en studio avec mes musiciens, puis on a vraiment un délire. On s'amuse, on est entre nous. Donc, je pense que on oublie le côté industrie professionnelle, c'est quand on se retrouve dans des cadres qu'on se le rappelle. Tu sais, je prends l'exemple d'hier, moi j'étais arrêté là dehors et avec mes musiciens on vient de faire les balances et tout et puis on est là, on rigole et puis c'est quand les gens m'approchent pour venir, quand les gens passent, te regardent, te sourient, t'approchent pour venir te saluer et veulent une photo que tu te rappelles que ah ouais, je suis artiste. Je suis artiste un peu connu. Ah ouais, ok.
Bah, un peu connu quand même. Pas mal de tournées internationales aussi. T'as fait pas mal de tournées internationales, mais on sait aussi que t'es papa, t'as une vie de famille. Donc comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux, être souvent absent, mais vivre son rêve, mais aussi vivre le rêve d'être papa?
Ouais, c'est je pense que c'est le beau défi de notre métier, puis d'essayer de trouver un équilibre. Et je pense que dans la compréhension des gens qui nous entourent, de la famille aussi, de dire bon, ok, on comprend, c'est parce que c'est plus que juste ma passion aussi, c'est mon gagne-pain, donc c'est aussi le travail. Mais vraiment, c'est atypique. T'sais, moi, je sais que tous les matins, je suis en vidéoconférence avec mon petit. Tous les soirs, avant qu'il aille se coucher, je suis en vidéoconférence avec lui. Quand je suis pas là, je sais qu'on a des codes. Papa, il revient dans 2 dodos, dans 3 dodos. Puis je sais que quand je suis à la maison, je suis vraiment à la maison. T'sais, je passe énormément de temps avec lui. On fait des activités. Le week-end dernier, je l'ai amené au musée de l'illusion. Et c'est à natation tous les samedis matins. Quand je suis à la maison, je m'assure que je suis là. Donc c'est vraiment, c'est des décisions conscientes. Je pense que c'est comme ça vraiment. Et chercher un équilibre et prendre des décisions conscientes et de se dire que bon voilà, je ne peux pas faire ceci de telle façon mais je peux faire autre chose et voici les autres choses que je peux faire pour être autant papa qu'artiste, qu'entrepreneur et encore une fois une super équipe. Tu sais, je sais que mon agente, on parle beaucoup de ça, on parle beaucoup de temps, de se donner du temps d'être en famille, de se permettre pour toute l'équipe aussi parce que bon voilà, je suis pas le seul papa dans l'équipe aussi avec mes musiciens, donc de se donner du temps pour être en famille, de se donner du temps pour pouvoir profiter, pour pouvoir se reposer, et c'est un gros défi aussi hein. Parce que des fois, tu dis, ça vient et tu dis oui, quoi. Mais je pense que je dirais équilibre et prendre des décisions conscientes pour comment marier les deux.
C'était une entrevue de Marie Ilaise dans le cadre du programme IJL.
Bonjour, ici Julie Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue.
vient de lancer le mois de la francophonie partout à travers le monde et bien sûr au Canada. Une foule d'activités sont dorénavant inscrites au calendrier des provinces et territoires du pays et nos journalistes sont là pour vous en parler. On se rendra au territoire du Nord-Ouest et en Ontario, mais d'abord au Manitoba, où on répète cet exercice culturel depuis 26 ans déjà. Cette fois, la Fondation Dialogue et ses partenaires ont pris les rênes de la 26e édition des Rendez-vous de la francophonie sous le thème « Découvrir aux éclats ». Le lancement s'est fait à l'Université de Saint-Boniface. Gaël Mpoyou à Winnipeg, au Manitoba.
Lors de cette matinée de lancement, de prestigieuses présentations ont été animées par de personnalités telles que Micheline Marchildon et des étudiants de l'université, mettant en lumière la diversité, la richesse culturelle et linguistique de la francophonie. Des moments forts ont marqué cet événement inaugural, symbolisant les débuts de festivités de rendez-vous de la francophonie dans la région. Myriam Leclerc, coordonnatrice de rendez-vous de la francophonie au Manitoba, parle des activités prévues cette année.
Alors, comme à chaque année, les rendez-vous, c'est vraiment de souligner, de faire découvrir la francophonie partout au Canada. Ils ont différentes activités qu'ils font à chaque année. Donc, cette fois-ci, on a encore les concours qui reviennent. On a toujours une variété de concours disponibles en ligne sur rbf.ca. Puis c'est des concours avec des prix très intéressants, que ce soit sur la langue, la dictée, sur le Canada. Donc, c'est vraiment offert aussi pour tout âge. Il y a la tournée d'humour Juste pour rire des Rendez-vous de la francophonie qui sera au Manitoba. Donc, c'est une tournée nationale. Ils passent au Manitoba le 16 mars et seront au CCFM. Donc, les billets sont disponibles sur le site web du CCFM. On a aussi, durant cette tournée d'humour, la porte-parole ou une des porte-paroles des Rendez-vous de la francophonie qui sera là, Micheline Marchildon, qui est justement une Manitobaine d'ici. Donc, ça, c'est un événement assez grand et populaire dans le cadre des Rendez-vous. Puis ensuite, il y a différentes activités. Donc, il y a des ressources disponibles en ligne, telles que les mini-rendez-vous pour les enfants ou les jeunes à l'école. Il y a aussi certaines projections de l'ONF disponibles en ligne.
À l'approche de la semaine du 18 mars 2024, des cérémonies de levée des drapeaux sont prévues en collaboration avec le gouvernement provincial et municipaux pour célébrer à la fois les rendez-vous de la francophonie et la Journée internationale de la francophonie. Le drapeau franco-manitobain flottera fièrement dans le parc mémorial tout au long du mois de mars, symbolisant l'attachement à la francophonie et ses valeurs. Cette édition promet d'être riche en événements culturels, festifs et éducatifs, offrant aux résidents du Manitoba l'opportunité de découvrir et de célébrer la francophonie sous toutes ses facettes. Winnipeg, IGL, Gaël Pouillot.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chétiquan en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
On parlait de littérature et surtout de poésie à Yellowknife, où l'organisme Northwoods TNO a mis sur pied une série d'ateliers de poésie et d'écriture poétique. Ceci pour permettre aux artistes locaux de parfaire leur art le temps d'une journée. L'artiste multidisciplinaire Tawahum Justin BJ, il a été dépêché sur les lieux en provenance de la Colombie-Britannique. Tawahum doit y animer un atelier portant sur la démystification et l'expérimentation en poésie. Il va aussi prendre part à des rencontres individuelles avec les participants, en plus de présenter un atelier devant public. L'activité va se conclure sur une séance à micro ouvert. Voici Daniel Biru.
Northwoods TNO tiendra samedi une série d'ateliers de poésie et d'écriture artistique à Yellowknife. Tout au long de la journée, de 10h30 à 17h, des séances de mentorat et des ateliers de poésie seront offerts à ceux et celles qui souhaitent travailler leur technique d'écriture. En compagnie d'un invité spécial, l'organisme des territoires du Nord-Ouest permettra aux artistes qui le souhaitent de parfaire leur imagination créative en vivant une expérience d'apprentissage de groupe. L'organisatrice en chef de l'événement, Amber O'Reilly, a très hâte d'y être.
Donc, il y a plusieurs écrivains en herbe à Yellowknife ou au territoire du Nord-Ouest, des personnes qui s'intéressent aux arts et à la culture, à la poésie, qui ont quelque chose à dire, des expériences à digérer, à raconter peut-être.
Les participants seront accompagnés pour toute la durée de l'événement par Tawahum Justin BJ, un artiste multidisciplinaire originaire de Vancouver qui effectuera un retour à Yellowknife. Celui qui se spécialise en poésie et dans le langage parlé participera aux ateliers pour interagir avec les participants et partager sa connaissance et son expertise dans la profession. Yale anticipe la journée avec beaucoup d'impatience.
It's really exciting. I get to do some one-to-one sessions with some of the local artists in the area, do some little 30-minute one-on-ones. We can talk about their poetry, we can talk about their storytelling and their careers.
Ce sera vraiment excitant, dit Tawahum. J'aurai la chance de faire des sessions seul à seul avec des artistes locaux. On va parler de poésie, de storytelling. Tawahum va également animer deux ateliers qui porteront sur la démystification et sur l'expérimentation de la poésie. Yale dit avoir très hâte de prendre part à l'ensemble des activités de la journée, tant les rencontres individuelles que l'atelier devant public.
It's really the whole day. There's not like one particular, like, because I enjoy doing one-on-ones a lot. I enjoy like being like face-to-face with somebody and like learning a little bit about what somebody wants to do, whether it's like creatively or like career-wise, and being able to support that more intimately. And I also really love sharing my skills, whether it's the basics. Feels really good because it means that other artists get to learn from the ground up. I'm just excited for the whole day. Like, it's, yeah, an immense honor.
Il n'y a pas d'événement en particulier, c'est vrament l'activité au complet qui m'interpelle, dit Yale. Je crois que les rencontres seul à seul peuvent aider à bien orienter la carrière d'un artiste, mais j'aime aussi présenter mes talents à l'ensemble des participants. Je suis excité à l'idée de cette journée. En plus d'avoir l'occasion de parler de leurs projets créatifs déjà en cours, l'activité offrira aux participants une gamme de sujets très variés. Les artistes auront la chance de traiter de thématiques telles que la place de l'art au sein des collectivités autochtones.
C'est pas nécessaire d'avoir une expérience préalable nécessairement pour apprécier l'atelier. Simplement une ouverture d'esprit, un cahier, un crayon et voilà un peu de créativité.
L'activité se conclura par une séance de micro ouvert où certains artistes invités offriront des prestations de poésie, de spoken word et de conte. Ici Daniel Biru, dans le cadre de l'initiative de journalisme local.
Bonjour, ici Adèle d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca. Écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca. radio@fréquenceinfo.ca.
Le mois de la francophonie a pris une toute autre allure à Toronto, où le Salon du livre a décidé de célébrer l'union entre les mots, le livre et la bière, et ceci en invitant des auteurs francophones à participer à une mise en lecture singulière, proposition qui a d'ailleurs été acceptée par les écrivains Sofiane Tchekouche, Muriel Laframboise et Daniel Marchildon, qui se sont livrés à l'exercice dans une agora comble, en présence de nul autre qu'un biérologue. Mario Dair a choisi ses nectars en fonction des humeurs des livres choisis pour ses mises en lecture devant public. L'audience a été globalement séduite, soit par les bières, soit par les extraits, ou les deux. Sur place, Marine Autogali a assisté à cette première expérience collective.
Le 31e Salon du Livre de Toronto a misé sur l'originalité. Entre les séances de dédicaces, les conférences ou les ateliers d'écriture, une proposition curieuse s'est déroulée dans l'Agora de l'Université de l'Ontario français qui accueillait l'événement. En effet, animé par Mario Dair, auteur et amateur de bière, la séance proposait d'associer un livre avec la boisson houblonnée. Deux auteurs et une autrice sont donc venus lire des extraits de leurs ouvrages que l'animateur a ensuite associés avec une bière. La salle comble a pu déguster les propositions en compagnie des auteurs et auteureux.
Mais c'était vraiment passionnant parce que j'ai découvert l'œuvre d'un auteur marocain et la bière, la première bière qu'on a dégustée après, c'était ma préférée. Donc, mais et je bois jamais de bière. Je suis une fille à cocktail, alors je pense que c'est pas mal. C'est une bonne... Allier la littérature et la bière, ça marche pas mal.
Soufiane Chakouche, journaliste et romancier, a lu un extrait de son dernier roman policier de sa série avec l'inspecteur Dalil. L'ouvrage s'appelle d'ailleurs « Inspecteur Dalil à Beyrouth ».
Dans l'entrepôt limitrophe était stocké, à la manière arabe, 500 tonnes de nitrate d'ammonium périmé qui servait à tout, sauf à l'agriculture, pour le Hezbollah. Quelques minutes plus tard, le Rosus coula et la moitié du port de Beyrouth redevint poussière.
Je peux te dire que ma bière préférée était la deuxième, qui était associée au roman, deux romans de Michel Laframboise. Alors, un c'est Le Papillon, mais je ne me souviens pas exactement les titres. J'ai trouvé l'expérience vraiment délicieuse, dans ce sens que, un petit peu de contexte par rapport à la créativité de l'auteur, puis ensuite un petit peu de dégustation par rapport à simuler nos papilles et puis notre appréciation. Alors voilà, ça a été très agréable cet après-midi, ce soir, oui.
Michel Laframboise, qui a rappelé son passé de scientifique et sa sensibilité à la crise climatique actuelle, a lu un extrait de son livre « Le papillon monarque des glaces ».
Les seigneurs du pôle Nord ne sont pas cruels, pas du tout. Au contraire, mes pères Noël sont convaincus d'avoir tout fait pour empêcher cette crise planétaire.
Mon goût pour la bière était différent. La première, c'était un peu corsé. La deuxième, je trouvais que c'était un peu fade. Et la troisième, en fait, bière, c'était la meilleure. Mais je ne sais pas au niveau des livres lequel m'intéresserait le plus. Parce que les histoires avaient l'air intéressantes.
Daniel Marchilton a lu la dernière page de Voyage fatal. L'auteur précise avant de lire que son personnage raconte des voyages qu'il a fait. Celui-ci l'a amené à Cuba et on le retrouve sur un bateau de plaisance.
Cette fois, je transportais une serviette de plage pour mon ami. Les vagues et le vent ont secoué notre vaisseau sans pitié. Et voilà que, sans que personne ne s'en rende compte, je me suis retrouvé à la flotte dans le sillon du bateau qui a continué sa route. J'ai tout fait d'abandonner la serviette à son sort pour me concentrer sur le mien. Incapable de nager, j'étais sûr de mourir. Par miracle, la houle m'a emporté jusqu'à un morceau de bois à la dérive. J'ai réussi à m'accrocher, tant bien que mal, et à me maintenir à la surface. Au bout de quelques heures interminables, j'ai enfin été repêché par un jeune couple à bord d'un voilier. Au bout de plusieurs semaines, le voilier a regagné son port d'attache, Halifax.
Est-ce que vous êtes venu déguster des bières ou écouter des romans?
Un peu des deux. On était assez curieux de voir cette association qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs.
Ça vous a paru pertinent? Est-ce que c'est un geste que vous allez refaire à la lecture du prochain roman?
J'ai trouvé ça très ludique. Donc ça rend la conférence un peu plus vivante et agrémentée d'un peu de bière. Après, bon, j'ai du mal quand même à avoir le rapport entre littérature et bière, mais ça a le mérite d'être original.
Est-ce que vous allez réitérer? Est-ce que vous, quand vous lisez, vous buvez?
Non, parce que je dois me concentrer. Sauf si c'est l'été et à la plage.
Est-ce que quand vous lisez, vous avez un verre à la main?
De temps en temps, un verre de vin. Mais puisque je lis plus tard le soir, c'est plutôt sans verre.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Bonjour, c'est Marine à Toronto, en Ontario, et vous écoutez Point de vue.
Dans plusieurs régions du pays, l'hiver est presque chose du passé, alors qu'un printemps plutôt hâtif a cassé les plans de plusieurs centres de glisse et de plein air. C'est le cas particulièrement au Québec, où les températures bien au-dessus des normales de saison ont fait fondre les semaines de relâche comme neige au soleil. Mais rien pour décourager la dizaine d'acteurs touristiques du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, qui se sont déplacés dans la région touristique de Charlevoix au Québec pour y piger de bonnes idées pour le développement du tourisme hivernal dans leur région dès l'an prochain. Ils ont rencontré une vingtaine d'entreprises qui offrent des prestations touristiques hivernales et de plein air de la région de Charlevoix. Les précisions de Daniel Aucoin à Chéticamp, Nouvelle-Écosse.
La région de Charlevoix a accueilli cette délégation du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse qui venait s'inspirer des bonnes pratiques régionales de développement touristique hivernal. L'organisation a proposé des présentations sur la destination et quelques membres de l'équipe accompagnaient le groupe durant son séjour. Claudia Villeneuve, coordonnatrice du développement touristique régional à Tourisme Charlevoix, souligne que cette région du Québec a été honorée d'accueillir la délégation du Cap-Breton.
Bien, c'était avant tout un honneur pour nous d'avoir été ciblés par l'organisation de pour venir dans le sens s'inspirer de nos pratiques de développement touristique hivernal. On a vraiment été très, très, très honorés et je vous dirais que ça n'a pas été les idées qui manquent pour bâtir un magnifique itinéraire à tout ce beau groupe d'intervenants et d'acteurs et d'opérateurs d'entreprises touristiques. Donc, on a été vraiment très, très, très honorés d'avoir été choisis par eux.
André Bourgeois, un des membres de la délégation du Cap-Breton, est président du Conseil économique de Chéticamp. Il explique que la région de Charlevoix au Québec avait été choisie pour les similarités avec le Cap-Breton sur les différents défis et enjeux liés au développement du tourisme hivernal.
It was an incredible experience in the sense that Charlevoix is essentially a rural area adjacent to larger cities, Montreal and Quebec City in northern Quebec. So similar challenges are shared, things like how do you stay open in the summer if you have a winter-focused business, and how do you stay open in the winter if you have a summer-focused business? Where do you find workers? Where do you find housing for workers? How do you attract people from outside of your region? All of these common challenges were shared, so it was very interesting to see how well Charlevoix is doing with these things. It was very, I don't want to say so much eye-opening, just inspirational.
De retour au Cap-Breton, les membres de la délégation souhaitent tirer parti de nouvelles opportunités pour rehausser leur offre d'expériences touristiques en hiver. On souhaite maintenant renforcer l'attrait du tourisme hivernal au Cap-Breton et créer des occasions qui seront bénéfiques pour l'économie d'ici et qui favoriseront la vitalité de nos collectivités.
Voilà, c'est déjà tout pour nous. Merci à nos journalistes Marie Hillès, Marine Autogali, Daniel Biru, Gaël Mboyo et Daniel Aucoin. Boris Chassagne ici à l'animation et à la réalisation. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa avec le précieux soutien de votre radio locale. Merci à vous d'être là. Restez à l'écoute de l'émission qui nous suit. À la semaine prochaine. Ciao!
yes, eh?
CKUT 90.3 FM. Kicking it, give them a problem. Oh.
Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben.